Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le lundi 18 octobre. Marion Lourd, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le nom de Nicolas Sarkozy qui revient dans l'actualité judiciaire. Aujourd'hui, 5 proches de l'ex-président comparaissent dans l'affaire des sondages de l'Élysée. L'ancien chef de l'État n'y sera pas, il invoque son immunité. On voit ça après les autres titres, Marion.
Chacun sa solution face à la flambée des prix du carburant. De plus en plus de Français se tournent vers les voitures hybrides d'occasion. Les vacances arrivent bientôt, le casse-tête est déjà là pour certains parents. Par manque de bras, plusieurs communes ne peuvent pas proposer de centre de loisirs pour ces congés. Dans l'actualité aussi, peut-être le début de l'effet domino en Chine suite à la faillite annoncée du géant Evergrande. Et puis finance et famille, les ingrédients vénéneux de la série Succession, de retour sur vos écrans.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa.
Un témoignage bouleversant. Dans 9 mois et 9 jours, Pauline Lavaux raconte la naissance et la mort presque immédiate de son bébé. Elle raconte la douleur, le deuil et la lumière au bout dans un livre d'une justesse et d'une force étonnante. Pauline Lavaux sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouve Léa à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui répondra à toutes vos questions. 01 45 24 7000, le standard est ouvert et vous attend.
France Inter. 5 prévenus et un grand absent devant le tribunal correctionnel de Paris. À partir d'aujourd'hui, des proches de l'ex-chef de l'État, Nicolas Sarkozy, comparaissent dans le dossier des sondages de la présidence pour favoritisme et détournement de fonds. Procès qui intervient 10 ans après les faits. Bonjour Laurélie Carrive.
Bonjour.
Plusieurs centaines d'études avaient été commandées à l'époque en quelques années. Dans quelles conditions? C'est ce que les juges vont examiner.
Entre 2007 et 2012, l'Élysée a payé pour plus de 7 millions d'euros de conseils en opinion et de sondages en tout genre sur l'image de Nicolas Sarkozy, son mariage avec Carla Bruni, la grossesse de Rachida Dati. Mais ce qui intéresse la justice ici, ce sont les conditions dans lesquelles ces prestations ont été commandées sans aucun appel d'offres et parfois grassement rémunérées. L'historien Patrick Buisson est soupçonné d'avoir détourné 1 400 000 euros. Il était à la fois conseiller de l'ombre de Nicolas Sarkozy et patron de 2 sociétés auprès desquelles une partie de ces sondages ont été achetés. À l'époque, secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, lui, est jugé pour favoritisme. Son avocat, Philippe Bouchet-Zelgosi, renvoie la balle vers Nicolas Sarkozy, protégé par son immunité présidentielle.
C'est le président de la République qui prend la décision d'avoir recours à certains instituts de sondage. Je vois mal comment aujourd'hui on pourrait ne pas juger le président de la République qui est protégé par la Constitution, et c'est bien normal. Et en même temps juger celui qui s'est borné à exécuter les instructions du président de la République.
Ouais, Laurélie, ce procès va tout de même mettre en lumière la façon dont étaient gérées les dépenses de l'Élysée.
L'un des arguments de la défense est de dire que depuis des décennies, la tradition voulait que la présidence de la République n'ait pas besoin de se plier à la règle des appels d'offres. Jérôme Carcintier, l'avocat d'Anticor, partie civile au procès.
Il y a cette conception comme si l'Élysée était une sorte de citadelle, une île dans l'État qui ne répondrait à aucune des règles de la démocratie et des règles de fonctionnement de la dépense publique.
Une vision absurde, anachronique, dit-il, que ce procès permettra peut-être de déconstruire.
Un procès jusqu'au 12 novembre. Et pour remettre à plat le système judiciaire après 2022 et l'élection présidentielle, Emmanuel Macron ouvre cet après-midi les états généraux de la justice depuis le Futuroscope de Poitiers. Objectif, résoudre le malaise dans la justice dénoncé en juin dernier par les 2 plus hauts magistrats de France. Les délais, notamment, posent problème, c'est à lire sur notre site franceinter.fr.
Il est 7h04, les Français qui se chauffent au fioul et les automobilistes, Marion, attendent de pied ferme un geste du gouvernement.
Un accompagnement des ménages promis par le président lui-même pour les prochains jours. Il s'agit de faire face à la hausse des prix du carburant, 1,59€ le litre de gazole ce matin, 1,75€ le sans-plomb 98. En attendant, de plus en plus d'entre nous se tournent vers les voitures hybrides. Les ventes explosent, elles représentaient plus d'une auto vendue sur 5 l'an dernier. Et vu le prix, Julien Morcelli, l'engouement vaut aussi pour le marché de l'occasion.
Jacques et sa femme ont toujours eu envie d'une voiture hybride, mais il y avait un hic.
Alors c'était hors de prix pour moi. Parce que nous sommes retraités, donc forcément nous ne sommes pas très riches.
Du coup, ils ont décidé d'acheter une voiture hybride d'occasion pour environ 20 000 euros.
Plus de 30% de moins qu'une voiture neuve.
Soit presque 6 000 euros de gagné pour un véhicule de moins de 30 000 km.
C'était exactement ce qu'on recherchait, parce qu'en fait, elle consomme 2 fois moins que l'ancienne voiture.
Jacques a acheté sa voiture auprès de l'agence Aramis Auto d'Orgeval, près de Paris. Depuis quelques quelques mois, Olivier Wertheimer, le responsable, voit de plus en plus de clients faire pareil.
On a une grosse augmentation de notre nombre de véhicules en hybride rechargeable.
Si les constructeurs produisent autant de voitures hybrides neuves qui finissent ensuite sur le marché de l'occasion, c'est pour respecter des normes environnementales.
Il y a un seuil au niveau du taux de CO2 rejeté à l'année par rapport aux véhicules vendus qui doit être respecté. Et donc par rapport à ça, chaque constructeur sort son véhicule hybride pour pouvoir rentrer dans ces normes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut proposer une multitude de modèles.
Le marché de l'hybride d'occasion devrait donc continuer à progresser, sans toutefois remplacer le thermique, car il convient surtout aux trajets courts. Au-delà de 50 km, les voitures hybrides consomment plus qu'une voiture à essence.
Et décidément, l'hybride et l'électrique sont à la mode. Stellantis, maison mère de PSA et LG Energy, annoncent ce matin la construction d'une usine commune de production de batteries en Amérique du Nord. Essence chère ou non, les vacances arrivent. Elles débutent ce vendredi soir pour les trois zones. Impatience des enfants, mais inquiétude de certains parents. Depuis la rentrée, plusieurs communes ont du mal à organiser leurs activités périscolaires, centres de loisirs compris. On manque de bras au Sable d'Olonne et dans plusieurs villes des Yvelines ou d'Essonne comme Bures-sur-Yvette, où la mairie a dû fermer déjà certains centres d'accueil. Vous l'avez constaté, Marion Ferrer.
L'affiche est placardée sur le portail de l'école.
Pas de garderie, pas de centre de loisirs.
Chafia l'a découverte la semaine dernière. Ses deux enfants sont en primaire et maternelle. Impossible de les laisser seuls.
J'ai personne. Mon mari le travaille, alors je dois rester avec eux. Je cherchais un travail, mais malheureusement, à cause de ça, j'ai arrêté tout.
Au total, sur les trois groupes scolaires que compte la ville, deux centres aérés sont fermés. Marie-Laëlle Jouzan est présidente de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public de Bures-sur-Yvette. Pour les vacances à venir, comme beaucoup, elle s'est résolue à garder ses enfants à la maison.
La mairie a quand même essayé de trouver des solutions. Donc, nos centres de loisirs ont été fermés avec la mise en place d'une navette qui peut, le matin, emmener nos enfants dans un autre centre de la ville. Mais ce centre, il est situé à 40 minutes à pied.
Ces fermetures, le maire UDI, Jean-François Vigier, les explique par l'absence d'animateurs diplômés depuis la rentrée.
D'abord parce qu'il y a eu moins d'examens de BAFA avec la période Covid, donc nous manquons d'encadrants. Il nous faut recruter 18 personnes, puisque ce sont des jeunes qui viennent une heure par-ci, deux heures par-là. Donc il nous faut énormément de personnes pour arriver à faire 4 équivalents temps plein. Il nous en manque encore, il y a quelques jours, il nous en manquait encore 6.
Pour pallier l'urgence, du personnel administratif de la mairie est venu renforcer les équipes d'animation, permettant notamment de maintenir l'accueil du midi et donc de la cantine.
Là, c'est Facebook qui recrute. Le géant californien veut créer 10 000 emplois en Europe d'ici 5 ans. Des petites mains pour construire le métaverse, cet univers parallèle numérique accessible par Internet. On pourra par exemple y signer des contrats sans être vraiment présent. Explication dans le journal de 7h30 sur Inter. Au chapitre éco encore, coup de frein à la croissance chinoise, 4,9% sur un an seulement. En cause, les pénuries consécutives à la pandémie et la crise de l'immobilier incarnée dans un nom, Evergrande, géant de l'immobilier au bord de la faillite depuis le mois dernier. Et dans son sillage, les faillites se multiplient. Correspondance Stéphane Pambrin.
Ce que l'on redoutait est en train d'arriver, l'effondrement d'un château de cartes. Après Evergrande, c'est le groupe Cynic qui s'est dit en défaut de paiement. Cynic avait fait les gros titres de la presse le mois dernier, quand l'action du groupe avait perdu 87% à la bourse de Hong Kong dans la foulée des déboires d'Evergrande. Un peu plus tôt, c'était Fantasia qui annonçait manquer de liquidités. Tous ces groupes immobiliers, longtemps locomotive de l'économie chinoise, n'ont plus d'argent. Ils ont souvent trop investi dans un secteur où le gouvernement a décidé d'intervenir pour éviter une explosion de la bulle immobilière. Aujourd'hui, les dettes cumulées des promoteurs immobiliers chinois s'élèvent déjà à 5 000 milliards de dollars, dont près de la moitié sont des prêts bancaires. Des faillites en cascade auront donc forcément des conséquences sur l'économie chinoise et au-delà sur l'ensemble de l'économie mondiale. La Banque centrale de Chine s'est pour la première fois exprimée sur ce dossier, affirmant que l'affaire est délicate mais gérable. En gros, pas de panique, mais on n'en sait pas plus puisque l'État chinois n'a toujours pas dit s'il volerait au secours de ses entreprises. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
Au Royaume-Uni, Premier ministre et parlementaire rendront hommage aujourd'hui à Sir David Amos à la Chambre des communes. Le député conservateur est mort poignardé vendredi lors d'une permanence parlementaire. La piste terroriste est privilégiée.
Il est 7h10 et les clubbeurs viennent peut-être de rentrer se coucher. Plus qu'à attendre maintenant le résultat des tests Covid.
Ces cobayes vaccinés du projet Revient la nuit ont dansé des heures à la machine du Moulin Rouge à Paris, sans masque ni capteur d'air. Un test salivaire à l'entrée, un autre dans une semaine. Objectif, tester la transmission de la maladie entre vaccinés dans les lieux fermés. Des photos portraits dans vos journaux ce matin et des spots à la télévision et au cinéma. C'est la nouvelle campagne de sensibilisation sur le handicap. Budget 3,5 millions d'euros. Mot d'ordre, voyons les personnes avant le handicap. Accueil mitigé, Alice Cachaner.
Dans les courts-métrages réalisés par Yvan Attal, des scènes de la vie courante, une soirée entre collègues, une pause cantine ou encore un rendez-vous galant où évoluent des personnages handicapés.
Je ne crois pas, elle est encore plus belle que sur les photos.
Voyons les personnes avant le handicap.
On veut toucher le grand public pour dire oui, les personnes handicapées sont parmi nous. Faisons tomber les préjugés.
Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées.
Il n'y aura pas qu'une campagne visuelle, puisqu'il y aura aussi 10 portraits de personnes pour représenter tous les types de handicap, pour tout simplement faire monter le degré d'acceptation de la différence dans notre société.
Une campagne de sensibilisation longtemps réclamée par les associations. Il faut dire que la dernière en date remonte à 2005 avec la loi Chirac sur le handicap. Sensibiliser le grand public, c'est une bonne chose, mais le message aurait pu être plus percutant, regrette Arnaud de Broca, le président du collectif Handicap.
C'est vrai qu'on est dans des messages un peu à l'eau de rose, j'ai envie de dire, des belles photos, un slogan. Et cette campagne montre plutôt que toutes les personnes handicapées sont insérées dans la société et que tout va bien. Malheureusement, la réalité est quand même extrêmement différente.
Un décalage avec la réalité, mais aussi avec l'action politique. Il y a 10 jours, le gouvernement a bloqué une réforme phare et très attendue sur l'allocation adulte handicapé.
Traîtrise, alliance machiavélique et lutte intestine. Je ne vous parle pas politique, mais télévision, en l'espèce Succession, série télé multi-récompensée. La famille Roy et son empire financier reviennent pour une 3e saison sur OCS. Alexis de Meyer l'a regardé pour France Inter et il s'est régalé.
Kendall Roy va-t-il parvenir à tuer le père et à s'emparer du puissant groupe de médias Waystar? La grande question de cette série addictive hante à nouveau la saison 3, marquée par l'apparition savoureuse d'Adrian Brody. Le créateur de Succession, le britannique Jesse Armstrong, poursuit sa relecture habile de la tragédie grecque et du drame shakespearien. Au fil de ces 9 nouveaux épisodes, Logan Roy et sa descendance de loups de Wall Street plus affamés que jamais vont déserter Manhattan direction Sarajevo et la Toscane. Dans la lignée de Dallas Dynasty ou plus récemment Empire, Succession nous plonge dans l'univers impitoyable de la haute bourgeoisie américaine façon Trump, mais au-delà de la puissante satire du capitalisme, c'est bien la famille qui est ici le thème central. Comme dans Les Sopranos ou The Crown, le contexte, aussi détaillé soit-il, n'est en fait qu'un prétexte pour évoquer la violence et la cruauté des rapports humains au sein d'une cellule familiale.
Violence et cruauté du sport aussi. Le joueur de tennis Roger Federer dit adieu au top 10 mondial aujourd'hui. Et puis le sport, c'est aussi l'émotion du stade Vélodrome hier soir. Les footballeurs de l'OM l'ont certes emporté 4-1 face à Lorient. Ils ont surtout salué une dernière fois celui qu'ils appelaient le boss dans un stade pavoisé. Dommage à Bernard Tapie.
Merci Marion Lourd. Dans 3 minutes, le zoom sur la nouvelle vie française des réfugiés afghans.